Cousine Milo, bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous vous souhaitons la cordiale et fraternelle bienvenue au Club La Presse de ce lundi 23 octobre 2023. Club de la Presse que vous suivez en direct sur Canal FM, mais également sur les antennes de toute une chaîne de médias partenaires, Radio Lumière à Nero, Radio L'Appel, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan, mais également Radio Le Bénin et Bénin Radio, les applications Canal FM et même la chaîne YouTube qui nous retransmettent directement partout au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Je salue, félicite et remercie les techniciens. On se demande s'il a 20 doigts. C'est Vitogbe Koku Michel Tomega qui est aux différentes manettes techniques. Je salue et remercie également les confrères qui vont co-animer avec nous aujourd'hui. Je les présente dans l'ordre d'arrivée. Kodjovi Jean-Baptiste Atisso de Corps Diplomatique News.tg. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent à travers le monde entier.
Merci. Harim Yaou Tchanyaou de Nouvelle Opinion, bonjour.
Sass, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à toutes et à tous.
Merci. Uriel Kakpala Enyang de Mega Info, bonjour.
Bonjour Sass Innocent Gao, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonjour à toutes les femmes qui auraient accouché en ce mois d'octobre.
Qui ont accouché
en
grâce
ce mois.
Grâce aux œuvres d'un certain Kakpala, par exemple. Suivez mon regard. Eh bien, félicitations. Alors, c'est un garçon ou bien une fille?
T'as une très jolie fille.
Une jolie fille.
Une très, très belle fille.
Eh bien, voilà. Tu sais que par les phosphates de la CTMB à l'OTP, en passant par IFG, tout ça là, beaucoup de Togolais qui sont venus à travailler à Haoté, dont tes frères de la Bina, ils ont beaucoup épousé de femmes de Haoté. Eh bien, Kakpala, ta fille va retourner se marier à Haoté.
Si c'est la volonté de Dieu,
il en sera ainsi.
Haoté vient dans le Yoto.
je prêche pour ma chapelle. Merci, nous attendons un quatrième confrère, mais assurons-nous qu'il nous aura rejoint avant de vous le présenter, même si vous devinez quel journaliste nous pouvons attendre lundi, si on a déjà Jean-Baptiste, Harry Miaou et Uriel. Le menu aujourd'hui, la brûlante actualité, c'est le baptême de feu pour la justice militaire avec un procès annoncé aujourd'hui et selon les indiscrétions, le procès déjà ouvert. Nous allons vous en parler, tout comme quand Lomé prône le dialogue pour la paix et la sécurité en Afrique, pour ne pas revenir sur le forum sur la paix et la sécurité que notre capitale a abrité en fin de semaine dernière. Et puis, le gouvernement qui veut réglementer l'exploitation des taxis motos et des tricycles. Et si nous avons le temps également, revenir sur l'abondante activité diplomatique. Quand, dans la seule journée du vendredi dernier, le chef de l'État a reçu les lettres d'accréditation de 14 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires dépêchés ici au Togo. Le quatrième mousquetaire du jour, il est là. Il s'appelle Didier Komiasogba de Togo Breaking News. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM et bonjour à mes aînés dans tous les sens ici présents en studio.
Merci. Eh bien, pour aborder tous ces sujets dont certains sont brûlants de par leur actualité, revisitons cette pensée du jour que nous fournit Georges Bernard Shaw, qui a écrit que, citation, « L'humanité serait depuis longtemps heureuse si les hommes mettaient tout leur génie, non pas à réparer leurs bêtises, mais plutôt à ne pas les commettre. » Encore une fois, « L'humanité serait depuis longtemps heureuse si les hommes, c'est-à-dire nous, si les hommes ne mettaient pas leur génie, si les hommes mettaient leur génie, non pas à réparer leurs bêtises, mais plutôt à ne pas commettre ces bêtises qui nous empoisonnent la vie. Mais avant l'émission proprement dite, nous savons tous que Lomé a été encore arrosé tôt ce matin par une pluie assez abondante par endroits. Et on nous signale que vers le quartier Legbacito, Léo 2000 consort, l'actualité se conjugue encore avec inondation. Et les riverains, avec preuve à l'appui, nous témoignent que c'est dû au système de pompage qui est défaillant. Le moteur, la pompe qui est installée, tourne à plein régime. La pompe aspire l'eau, mais les tuyaux qui sont défaillants refoulent cette eau et la ramènent dans le bassin d'orage. La conséquence, c'est que les maisons, les boutiques et les rues avoisinantes sont inondées. Si nos amis de l'ANPC sont à l'écoute, peut-être qu'on va dépêcher une équipe pour aller réparer ou le moteur ou le système de pompage afin que les habitants de ce quartier soient un peu soulagés. Uriel?
Non, ça doit être à Léo 2000 parce qu'à Legbacito, il n'y a pas un bassin de rétention. Oui, il n'y a pas un bassin de rétention d'eau. Vous savez, tout le contournement a été construit sans bassin de rétention d'eau, sans caniveau. Et là, ça devient très compliqué. Actuellement, il n'y a pas quand même, il n'y a pas eu une très grande pluie qui pouvait causer des dommages à Legbacito, la commune Agonivé 2. Maintenant, vous savez que chaque jour, quand nous en parlons, nous en parlerons aussi peut-être, mais il faut dire que la ville construite par les habitants, elle est plus vaste que la ville pensée par les architectes et les planificateurs. Donc aujourd'hui, ce problème, on ne peut pas s'en échapper. Peut-être que, au regard du développement de la ville, l'autorité va prendre les dispositions pour qu'une ville à la périphérie soit construite avec moins de problèmes d'inondation et moins de problèmes d'habitation, moins de problèmes aussi d'insécurité, peut-être. Merci. Sinon, actuellement, là où nous vivons tous, ce n'est pas cela.
Merci. Il y a ces projets de logements sociaux. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, le nouveau ministre d'État en charge de l'urbanisme a visité les chantiers pour la construction de ces logements sociaux. Mais l'actualité brûlante, c'est nos quartiers, notamment Léo 2000. C'est vrai que le bassin a débordé, on a installé le système de pompage, le moteur tourne, sauf que les tuyaux n'arrivent pas à évacuer l'eau, lesquels tuyaux ramènent l'eau pompée dans le bassin, cette inondation. Et sûrement que nos amis de l'ANPC vont dépêcher une équipe pour aller s'enquérir des faits et corriger rapidement, pourquoi pas. Parce que ceux qui nous écoutent vers Léo 2000 doivent nous écouter en toute sérénité, Harry Miaou.
Absolument, oui. Mais je ne suis pas à Léo 2000, je suis à Védi. Mais qui dit à Védi parle de Léo 2000 également. Donc je sais de quoi vous parlez parce que je connais un peu ce bassin de rétention. Et tout le temps, je vis ce que ce bassin cause comme dégâts au niveau des riverains. Et vivement, l'IMPC que je salue pour leur courage et pour la bravoure que tout le temps, dont ils font preuve. Chaque fois que nos populations sont débordées, soit par les eaux, soit par d'autres sinistres. Le colonel Baka et ses éléments, ils font du bon boulot. Courage à eux. Et je sais que d'ici là, ils vont faire le tout de leur possible pour résoudre cette question qui embête et qui crée des désagréments à nos populations.
Merci. Sujet brûlant de la journée, c'est le baptême de feu de la justice militaire. L'information a circulé ces derniers jours et depuis ce matin, c'est devenu une réalité. Togo Matin, dans sa parution du jour, écrit « Affaire Bitala Majulba, un test pour la justice militaire, les enjeux d'un procès ». Pendant que Liberté, lui aussi, se demande assistera-t-on au grand déballage ou à un simulacre de procès négocié? Jean-Baptiste Kordjovi Atisso, c'est le fait du jour, l'actualité du jour, avec le tribunal militaire qui tient sa toute première audience. Et on nous dit que pour la justice militaire, on parle plutôt d'une affaire, de l'affaire ministère public contre Songine Yendoukoua et autres. Donc le juge d'instruction militaire qui a pris une ordonnance en date du 12 octobre 2023 ordonnant renvoi à la chambre criminelle du tribunal militaire. Dans cette affaire, le nom qui est le plus cité, c'est le général de brigade Félix Abalo Kadanga et co-accusé qui sont poursuivis pour complicité d'assassinat, complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice et complot contre la sécurité intérieure de l'État. Le procès est prévu pour être ouvert ce lundi 23 octobre. Jean-Baptiste.
Oui, ça c'est effectivement. C'est depuis vendredi soir que les informations ont commencé à fuiter, comme quoi il y aura un procès qui va s'ouvrir ce lundi matin à 8h. Bon, non loin de l'ancienne présidence. Mm-hmm. Et que ce procès se déroulerait à huis clos. Et après, on a su que c'est le procès militaire qui emballe l'ancien général.
L'ancien chef d'état-major
général
des forces armées togolaises.
Abalo Kadanga.
Kadanga.
Oui, Kadanga, oui, c'est ça, bien sûr.
Donc, ancien chef d'état-major, pas ancien général, il est toujours général.
Il est toujours général.
C'est ça, ok.
Général un jour, général pour toujours.
Ah, c'est ça, ok, merci pour la précision. Donc, cette information est accueillie d'une façon ou d'une autre avec circonscription, parce que, vous savez, les procès militaires... Bon, les Togolais n'ont pas véritablement pas assisté à cela, sauf
une grande première
parce que ce qui peut ressembler à cela était ce procès qui avait impliqué en 2009 le demi-frère du chef de l'État Kwacha Nyasingbe, et en 2011 la sentence avait tombé. Et puis il avait écopé de 20 ans de prison
qu'il continue à purger
naturellement. Et donc aujourd'hui, bon, celui qui est peut-être l'acteur principal avec les trois chefs d'accusation que tu viens d'énumérer, vous savez, entre-temps, c'était pratiquement les mêmes chefs d'accusation qu'on avait portés contre Kwacha Nyasingbe.
Kwacha Nyasingbe, c'était atteinte à la sécurité de l'État, pour dire qu'on on l'avait accusé. Mmh. Il était soupçonné de vouloir faire un coup d'État militaire.
Bien sûr.
Il n'y avait pas complicité d'assassinat. Mmh.
Donc, c'est pratiquement les mêmes chefs d'accusation. Et aujourd'hui, bon, on ne sait pas si c'est la roue de l'histoire qui est en train de tourner. Parce que, vous savez, Kadanga était... le meneur principal à l'époque, c'est lui qui était, selon les informations, c'est lui qui était dépêché au domicile de Kwacha Nyasingbe pour pouvoir opérer et l'arrêter par la suite. Mais aujourd'hui, c'est lui aussi qui se trouve maintenant dans les pétrins. Bon, on peut se le dire sans se tromper que l'histoire vraiment est très têtue. Et selon la mesure que vous avez servi les autres, peut-être cette même mesure pourra vous être servi un jour, tôt ou tard. Donc, c'est la situation à laquelle nous nous assistons depuis ce matin.
Merci pour cette philosophie sur la vie. Mais l'actualité, Didier Assogba, c'est l'ouverture dont des indications nous fixent que le procès est effectivement ouvert, même si les médias sont interdits de couverture. Également que les avocats sont interdits d'interview durant tout le procès. Mais nous découvrons un peu ceux qui représentent l'État, les avocats qui représentent l'État, les avocats qui représentent Majulba et co-accusé, mais également les avocats qui défendent les intérêts de Bitala Majulba. Comme je disais, c'est une grande première, l'ouverture de ce procès militaire, procès que nous suivons tous avec attention et intérêt.
Vous savez, ça ne peut pas être autrement, parce que ce qui s'est passé en 2020, notamment dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, c'était une affaire d'État et ça concerne tous les Togolais. C'est vrai, on parle de Bitala Madulba, on parle de la famille Madulba, on parle peut-être de l'armée, mais ce qui s'est passé là, c'est une affaire nationale. Ça concerne tout le Togo. Et à partir de ce moment-là, oui, je pense que tous les Togolais sont intéressés. Et ma foi, le petit hic dans cette affaire actuellement, c'est le fait que il n'y ait pas de public présent, il n'y ait pas de médias qui soient autorisés à ne serait-ce que couvrir l'événement, suivre de près ce qui se passe et ce qui s'est passé pour que le peuple togolais ait ce droit à la vérité sur véritablement les faits, les commanditaires de cet assassinat et les exécutants, les tenants et les aboutissants. Puisqu'on parle de l'affaire Sanguine, Yendu...
Officiellement, il s'agit de l'affaire ministère public contre Sanguine, Yendoukoua et autres.
Oui, je pense que c'est le monsieur maîtresse de l'enquête. C'est autour de lui que l'enquête a eu lieu et qui a permis justement... Il était le comment on dit...
L'ordonnance ?
Non, le premier suspect. C'est ça. Le premier suspect, je pense que c'était le chauffeur de Madulba à l'époque. Donc, il était le chauffeur, le premier garde du chef corps à l'époque. Et donc, il était le premier suspect. Et il avait même été dit des fuites qu'on a eues et qu'on a lues ici et là, c'est qu'il était celui qui aurait remis l'arme de son patron avant de le remettre sur place, puisque c'était l'arme de Madulba qui a servi.
Aurait servi à l'assassinat.
Non, mais l'enquête l'a confirmé.
Ah oui, mais donc, en attendant, le verdict final, soyons toujours prudents.
Bon, après.
Oui, parce que personne n'a rendu public l'enquête.
Après, la justice peut démentir, mais les enquêteurs ont confirmé, que ce soit par les inspecteurs, la police scientifique ghanéenne, la police scientifique française qui ont aidé les enquêteurs togolais, c'était confirmé que c'était l'arme du crime était l'arme de la victime lui-même. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas trop de... on ne fait pas trop de mystère autour de cet aspect-là. Mm-hmm. Les autres aspects, c'est qui a organisé ça et qui sont les exécutants. C'était maintenant de ça il s'agit. Ça. On sait que plusieurs personnes sont arrêtées, plusieurs militaires sont arrêtés, des officiers de haut rang, des officiers, des sous-officiers, des hommes de rang aussi, et au-delà du général Félix Abalo Katanga, sur qui les projecteurs sont, on note également que deux autres officiers supérieurs devaient comparaître, mais cette fois libres, eux n'étaient pas arrêtés. Il s'agit notamment du colonel Massina et de l'autre colonel
Massina
Yotrefeuille Massina et de colonel Sogoyou, quelque chose comme ça, qui était à l'époque chef d'état-major général de l'armée
de terre,
et donc ils doivent également comparaître libres dans ce procès-là, puisqu'ils auraient été cités à plusieurs reprises par la plupart des personnes arrêtées. Donc c'est un grand procès, mais on aurait véritablement aimé que tout ça, on puisse suivre de près, ne serait-ce que pour étancher la soif des Togolais qui ont besoin de suivre ce qui s'est passé, ce qui se passe. Ce ne sera que service rendu à la nation.
Merci. Une grande première, et comme Togo Matin l'écrit, un test pour la justice militaire, les enjeux de ce procès, pendant que Liberté se demande si ce procès sera l'occasion du véritable grand déballage, ou plutôt un simulacre de procès négocié. On le saura peut-être à la fin, sauf que Harry Miaou, le public est interdit à la salle, la presse n'est pas autorisée à couvrir. Et nous apprenons que même les avocats de toutes les parties sont interdits d'accorder des interviews à l'issue des séances à qui que ce soit. C'est un procès à huis clos, mais continuons à garder foi que la vérité va éclater.
Non, absolument, je crois que la vérité va éclater, puisque nous sommes au Togo, on connaît notre pays. Vous savez, vous l'avez dit que c'est une grande première. Il n'y a jamais eu, d'ailleurs, de tribunal militaire. Finalement, nous l'avons. On n'a jamais pensé une seule seconde qu'on puisse interpeller de haut gradé de la cabine de quelqu'un comme le général Kadaga. Maintenant, c'est versé partout. Tout le monde sait. Le monde entier sait. Même si il est interdit à la presse, interdit aux avocats d'accorder des interviews, ce qui est sûr que il y a déjà une fumée qui est en train de sortir. Et à la fin, nous verrons de quelle couleur, comment est le feu, d'où vient le feu, nous tous, on verra la vérité. Maintenant, moi, je voudrais dire tout simplement que, en réalité, j'avais pas cru qu'il va arriver un jour où on va aller à un tel procès. Et d'ailleurs, quand on avait assassiné Madjouba, vous aurez pu constater qu'à ce micro, moi, je m'étais réservé. Je ne voulais pas ni commenter, ni me prononcer là-dessus. Jusqu'à ce matin, je me dis que je ne vais pas au fond. Nous laissons la justice faire son travail. Le moment viendra où nous aurons la langue très déliée pour parler, pour dire tout ce qui nous vient des officiels. Parce que pour moi, aujourd'hui, nous sommes toujours encore dans un camouflet, puisque nous n'avons même pas accès de là, mais on sait que quelque chose de sérieux se passe de l'autre côté. Mmh. Est-il que quelque chose montre à tous les citoyens ou une leçon peut être tirée par qui que ce soit, que le monde est très complexe? Et c'est comme un adage mina dit, le caméléon dit que Anouba c'est une voix. Donc que chacun sache, raison garder dans toutes les positions, dans les postures où nous sommes, dans les pouvoirs que nous avons, que chacun sache quand même comprendre qu'au-dessus de tout, il y a la loi et que chacun sache se comporter par rapport à la dimension du pouvoir qu'il a.
Merci Kakpala Uriel. Quand il lançait la justice militaire il y a quelques jours, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Piscokouvi Agbetome, rappelait qu'au Togo, les militaires sont des citoyens justiciables. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et si on a ceci ou cela à leur reprocher, ils devront s'expliquer. C'est cette grande première à laquelle nous assistons aujourd'hui. Nous déplorons encore une fois que le procès se tient à huis clos, que la presse est interdite de couverture, que le public est même interdit. Mais par indiscrétion, on apprend quand même qu'il y a d'abord un procureur militaire, mais il y a également des avocats qui représentent les pouvoirs publics, l'État togolais. Il y a des avocats qui représentent Madjouba et Toussaint. Il y a également des avocats qui représentent Kadanga et co-accusés. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment, mais quand même en suivant attentivement depuis là où nous sommes.
Et merci beaucoup. Vous savez, je ne sais pas s'il y a une information officielle par rapport à l'assassinat de M. Madjouba, qui serait le sujet principal de ce procès. Le courrier que moi j'ai lu sur les réseaux sociaux, bon, avec réserve aussi, je n'ai pas vu citer normalement le nom de M. Madjouba, que c'est lui qui serait concerné. Je le dis parce que je pense bien que si l'autorité a eu la volonté de mettre en place une justice militaire et qu'on soit à ce niveau, à cette date, qui est un premier procès contre des gens qu'on soupçonne d'être complices des assassinats, d'être complices de ceci ou cela, je pense que c'est une grande chose. Et citant les gens, tout le monde citant toujours le nom de Madjouba, je pense plutôt qu'il faut juger des gens pour avoir commis des crimes sur le plus petit des Togolais qu'au plus grand. Il n'y a pas que Madjouba qui soit assassiné, il n'y a pas que Madjouba qu'on trouve un matin comme corps inanimé au Togo. Il y a beaucoup de personnes qui ont été assassinées. Et moi, je pense que si l'autorité a pris cette initiative, c'est pour juger des gens sur tous les crimes qui ont été commis depuis qu'on connaît le Togo. Les crimes d'assassinat, les crimes de complicité, les crimes sur la sûreté de l'État et tout. Je pense que c'est cela. Bon, puisque peut-être M. Madjouba est un grand homme, est un grand militaire, c'est pourquoi tout le monde... Mais figurez-vous qui y aurait un petit enfant de votre famille qui serait assassiné par une balle d'un militaire. Vous n'allez pas vous mettre toujours à citer Madjouba. Un homme, c'est un homme. Un être humain, c'est un être humain. Pourquoi vous ne citez pas...
Nous parlons de Madjouba parce que c'est l'appel du jour. Nous avons toujours parlé de toutes ces morts ici à gauche. Les élèves, les Sinalengues et autres. L'enfant même mort par balle à Gwenyeve au plus fort de la C-14 où le nom de Kadanga avait été cité au moment de Covid. Ce jeune homme qui était allé faire ses besoins au cours de la nuit et qui a été abattu. À chaque fois qu'il y a une mort, nous en parlons, mais l'actualité de ce jour, c'est le tribunal militaire dont tout porte à croire que ça va traiter de la mort de Toussaint Madjouba, affaire à laquelle
Kadanga et co-accusés sont associés, oui, ou du moins soupçonnés.
Oui, c'est là que se situe moi mon problème, parce que ce que nous avons lu, il n'y a pas le nom de Toussaint Madjolba dedans. Moi, je me dis que tous les gens seront jugés sur les crimes commis. La liste des crimes que tout le monde connaît, oui, je pense que c'est sur cette liste que les gens seront jugés. Pour citer, dire que au Togo, je comprends finalement qu'il n'y a pas de surhomme, hein. Vous pouvez être n'importe qui.
Oui.
Un jour viendra, vous allez répondre. Parce que tout cela que nous avons vu répondre depuis qu'on a été enfant, je me dis que personne n'est surhomme ici. Donc nous devons extrêmement faire attention dans les actes que nous posons, à quel rang que nous sommes, à quel poste, à quelle position nous nous situons. Si nous posons des actes démesurés, un jour viendra.
Nous répondrons.
Nous répondrons.
Merci. Ça, il faut qu'on fasse l'histoire attention. Qui s'écrit en direct, ces dernières années, même si, si on n'y croyait pas, des gens comme Pacha Nyasingbe, comme
Pascal
Pascal Boudjona, comme le général Tidjani, Hassani Tidjani. Aujourd'hui, on parle de Abalo, Kadanga. Attention, l'histoire s'écrit en direct. Hein, ce qu'on croyait tout puissant hier passe par la justice ici et ailleurs. Même si c'est un peu loin, au Gabon, on a vu une dame, épouse d'un ancien chef d'État, la femme de Ali Bongo Ondimba, qui croupit en prison. Attention, depuis ce studio, un peu partout, sachant que l'histoire s'écrit. Même si un auditeur nous rappelle que c'est vrai que c'est les grands, beaucoup de grands sont jugés ici et là, mais lui ou elle attend toujours qu'on arrête également les grands ou les petits impliqués dans des crimes économiques aussi, et comme ça, le tout sera fait.
Non, mais je pense que c'est bien, mais je pense que c'est bien, on pourra peut-être y arriver pour les crimes économiques, peut-être là, l'occasion de saluer cette commission d'enquête parlementaire qui vient d'être initiée au niveau du Parlement togolais. Et peut-être que ça pourrait aboutir à quelque chose du genre. C'est l'espoir que nous portons aujourd'hui. Mais l'actualité, c'est que au moins, Uriel vient de dire quelque chose d'assez fondamental. On croyait des gens hier faiseurs de
lois. Intouchables.
Intouchables. On a même eu dire que c'est eux qui imposaient le chef de l'État actuel en tant que candidat, qu'ils ne voulaient pas. On a entendu beaucoup de choses, de fantasmes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le personnage cité et qui détiendrait à l'époque les rouages de l'État togolais, aujourd'hui se retrouve sous les verrous et va comparaître devant un tribunal militaire de surcroît et pour répondre des faits, de beaucoup de faits qui lui sont reprochés. Dans ce cas d'espèce, on parle de complicité d'assassinat, c'est assez grave. On parle de tentative d'entrave au bon fonctionnement
de la justice.
Ça veut dire qu'entre-temps, dans les enquêtes et dans le déroulé des enquêtes, il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations, puisque les gens ont dit de ne pas dire des choses qui ne sont pas officielles. Dans le déroulé de l'enquête, il y a eu beaucoup d'entraves à beaucoup de choses qui lui sont reprochées. Et pour finir, troisième chef d'accusation, plus grave encore, complot d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Donc ça fait entre 20 et 30 ans de prison, au minimum. Pour ça, au moins. Donc, on va ajouter pour les autres.
Merci beaucoup. on va terminer avec Arim Yaou.
C'est pour dire que tout ce que le Togolais vit aujourd'hui a un nom. C'est la volonté du premier de nous tous. Parce que ailleurs, ça peut ne pas se passer ainsi, ça peut se passer sous silence. Les gens vont beau crier. C'est ce que d'ailleurs les gens croyaient et avaient droit sur la vie d'autrui. C'est-à-dire les gens se disaient, il se passera rien. Je peux faire ceci, je peux me lever un beau matin, assassiner qui je veux au nom du pouvoir. Je peux me lever un matin, aller emprisonner qui je veux. Il n'y aura absolument rien. Et je crois que le président Faure Gnassingbé est en train de démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'au Togo, on veut construire vraiment un état de droit où personne, je dis bien, ne peut se prévaloir être au-dessus de la loi. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour cela que je rejoins Uriel pour dire que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, il y en a qui sont lancés dans les règlements de compte, il y en a qui se disent « Mafio, unquo jessimo ». Je veux leur montrer, c'est mon temps. Il faut que tous ces gens-là sachent que aïe, adviendra un jour où on ne pourra plus exercer, que ce serait d'autres qui vont le faire. Donc, le Togo avance, nous allons voir ce que ça va donner à la fin de ce procès, que
merci. Tout le monde... Mais précision utile, de la justice militaire à la justice civile, ce ne sont que des présomptions d'accusation. Attendons la fin de procès pour savoir si les gens seront condamnés pour ce qui leur est reproché ou bien s'ils seront lavés des accusations qui pèsent contre eux aujourd'hui. Jean-Baptiste ?
Oui, pour ajouter, c'est pour dire que le ministre l'a dit au début.
Le ministre lequel ?
Oui, de la justice. Oui, Agbetome, justement, parlait du tribunal militaire, mais je crois qu'il y a un pan important de la société aussi qui doit être aussi être capable d'être jugé. Mm-hmm. C'est le corps judiciaire même. Parce que aujourd'hui, les grandes difficultés auxquelles les populations sont confrontées émanent aussi des décisions qui sont rendues par le corps judiciaire.
Oui.
Et le cas le plus palpable du Bénin à côté, où plusieurs procureurs, plusieurs juges ont été mis sous les verrous par Patrice Talon, je crois que c'est un pas important des réformes que Pius Agbetome doit faire au cours de
pour une justice réellement égalitaire. Égalitaire,
parce juste. Que aujourd'hui toutes les
griefs, les griefs
de la population ne sont pas seulement
pour le moment, des militaires. Au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il y a des conseils de discipline.
Ça seul ne suffit pas.
Oui, je sais, je rappelais juste là.
Oui.
C'est conseil de discipline qui prennent des mesures disciplinaires assez sévères contre les magistrats convaincu de forfaiture, mais est-ce qu'on devra, quand est-ce qu'on pourra aller à ce que des procureurs, des juges soient réellement traduits en justice? Comme c'est un mouvement en avant, on pourra peut-être y arriver. Mais je rappelle le souhait de cet auditeur et auditrice qui souhaite vivement que demain également ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes économiques contre la nation puissent être aussi arrêtés et répondre de ce qu'on leur reproche. Sans transition, Lomé qui se veut la capitale du dialogue pour aller à davantage de paix et de sécurité en Afrique, c'est pour parler de ce Lomé Peace and Security Forum qui s'est tenu à Lomé, dont les conclusions inondent tous les médias internationaux encore jusqu'à ce jour. Revue de presse avec le confrère Imagine Demain qui titre « Forum paix et sécurité à Lomé, le Togo conciliateur en Afrique ». Pendant que Togo Matin, lui, il écrit « Les réflexions de Fort Gnassingbé par la voix de Victoire Togbé », juste pour dire que c'est la première ministre qui a représenté le chef de l'État à l'ouverture de ce forum et qui a transmis le message de Fort Gnassingbé. Et Méga Info qui parle lui aussi des réflexions sur les facteurs de fragilité des institutions étatiques en Afrique. Kakbala, pour rappeler que pendant 2 à 3 jours, les panélistes et autres plénipotentiaires ont débattu du thème « Comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance réellement démocratique en Afrique ?»
Je pense que c'est cela. Vous savez, c'est l'engagement du Togo après tout, lorsqu'on parle de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes sur les réflexions qui concernent les transitions en Afrique. Je pense qu'il va falloir que l'Afrique aille dans ce sens, puisqu'aujourd'hui, c'est un continent. Je peux dire même que c'est le premier des 5 continents qui ne se retrouve pas. Au plan politique, l'Afrique demeure le continent qui ne se retrouve pas, parce que chaque pays semble avoir en lui ses propres stratégies pour sa gouvernance. Alors que nous sommes condamnés à mettre en pratique les types de gouvernance, puisque ce sont des pays qui s'entremêlent chaque jour. Ce sont des pays où les mouvements font des va-et-vient. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas la stabilité au Togo, le Bénin ne peut pas se réjouir. S'il n'y a pas la stabilité au Ghana, le Burkina ne peut pas se réjouir. Donc je pense que c'est dans ce sens que cette initiative a été mise en place. Mais ce qui demeure important, une chose, c'était de se réunir à Lomé pour discuter des bonnes stratégies démocratiques, de bonnes méthodes pour les transitions politiques, mais une autre, c'est de mettre en application les recommandations issues de la rencontre. Qu'est-ce que cela va donner quand chaque délégation va retourner chez elle et à l'issue des comptes rendus avec les autorités? Qu'est-ce que cela aura comme impact? On va se limiter juste à retenir que le Togo Lomé a organisé un sommet, un forum du genre, ou bien les gens seront plus sérieux pour mettre en application les recommandations issues de la rencontre. C'est ça même le plus grand sujet. Mm-hmm. Parce que là, les pays, franchement, on a assez de soucis au plan politique et on se demande si on ne s'accorde pas sur une même méthode démocratique, est-ce qu'on pourra s'en sortir? L'Afrique a beaucoup de choses, du pain sur la planche, beaucoup de défis à relever, mais par la volonté des uns et des autres, je pense que
on va y arriver. Permettez que je rappelle encore la pensée du jour quand Georges Bernard Shaw écrit que l'humanité serait depuis longtemps heureuse si les hommes mettaient tout leur génie non pas à réparer leurs bêtises, mais plutôt à ne pas les commettre. Didier Assogba, voilà le mérite de ce forum de Lomé, c'est d'offrir un autre cadre à des pays qui sont un peu boycottés, le Burkina, la Guinée, le Mali, le Tchad, pourquoi pas le Gabon, ces pays qui sont accusés d'avoir opéré des coups d'État militaires, qui sont même suspendus par certaines des organisations régionales, voire continentales. Eh bien, si ces pays sont boycottés, l'OMI leur offre le cadre de se réunir, de poser leurs problèmes, de poser leurs difficultés, et avec les autres, on va les aider à s'en sortir.
Oui, je crois fondamentalement que le forum de l'OMI n'est pas seulement destiné à aider ces pays en difficulté ou ces pays boycottés à s'en sortir. Je crois que le débat qui est posé, c'est un débat qui concerne tous les pays africains dans tout leur sens. Le problème démocratique se pose partout sur le continent, dans tous les pays. Et le problème de la gouvernance démocratique, aujourd'hui aucun pays en Afrique ne peut dire qu'il a atteint un niveau de démocratisation assez enviable. On a beau citer les exemples du Ghana à côté, on en a vu ce que ça a été il y a seulement quelques années. On a beaucoup parlé du Sénégal. On voit ce que le Sénégal est aujourd'hui. Et je crois que
Didier, je ne t'arrête pas. Il y a quelques années, dans ce studio, des confrères citaient même le Mali en exemple que le Mali connaîtrait une démocratie plus avancée que le Togo. Et maintenant, en 2023, nous savons ce qu'il en est.
Et il y a deux ans, on citait le Niger. Il y a deux ans, on citait le Niger à la suite de cette alternance fabriquée. Ce n'était même pas vraiment une alternance, mais cette passation de pouvoir entre Issoufou et Bazoum, on en a vu ce qu'il a été. Tous les Nigériens à l'époque s'accordaient à dire qu'il n'était pas véritablement élu, mais puisque l'oligarchie a voulu que ce soit lui, on lui a donné le pouvoir. Et tout le monde citait le Niger à l'époque comme étant un exemple de transfert de pouvoir réussi et tout ça, que c'était bien pour le continent. Et aujourd'hui, on voit où se trouve le Niger, moins de deux ans après. Donc, le problème, et je dis, c'est clair, les participants l'ont dit, qu'il y a un déphasage aujourd'hui entre les promesses de la démocratie et la réalité de la gouvernance en Afrique. Donc, si ce déphasage pose un problème, le réel problème, c'est que ça renforce le scepticisme des populations vis-à-vis donc de la démocratie. Et les populations pensent aujourd'hui que la démocratie, telle qu'on l'applique en Afrique, n'est pas bon et qu'il faut trouver d'autres moyens de dévolution du pouvoir. Mais on se demande quel autre moyen. Voilà, aujourd'hui, c'est tout le problème aujourd'hui, parce que même dans les pays démocratiques, on parle. Vous avez écouté, par exemple, le ministre malien des Affaires étrangères, qui parle que quand on parle de transition des pays en transition ou de transition démocratique, à la suite des coups d'État, qu'on considère également les tripatouages de constitution, qu'on empêche les candidats de se présenter à des élections. Donc, il a présenté un tableau, et quand vous prenez, ça englobe tous les pays africains. Donc, ce débat-là, c'est un débat qui interpelle chacun des Africains que nous sommes. On a dit quelque chose tout à l'heure dans ce studio, que quand des gens occupent des pans de pouvoir, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais pour apporter une contribution à la démocratie, pour apporter une contribution à l'amélioration même de la gouvernance, pour que la gouvernance, au final, promeuve le développement et le droit même des pays ou des peuples africains, des populations, où qu'ils se trouvent sur les territoires. Si ce n'est pas ça le problème, donc on va continuer à multiplier ces sommets-là. Et je crois que beaucoup de choses ont été proposées à l'issue. Moi, j'ai lu la déclaration finale, j'ai même travaillé dessus. Beaucoup de choses ont été proposées, comme tu l'as dit d'ailleurs, et qu'on prend ta citation, ta pensée du jour. Si des gens mettent leurs efforts à travailler pour que des pays africains ne retournent pas dans le passé, pour recommencer l'apprentissage démocratique et de plutôt travailler à consolider cette démocratie-là, je pense que dans quelques années, l'Afrique sortira grandie.
Merci Didier. Bien, la déclaration de Lomé est assez exhaustive. Hein? Pratiquement tous les sujets ont été abordés. Il n'y avait pas de sujet tabou. Un franc-parler, je présume. Et on note également la satisfaction de ceux qui ont participé. Les représentants des États en crise, le Burkina, le Mali, le Niger et même le Tchad. Il y a même les représentants du secrétaire général des Nations Unies qui sont allés dire leur satisfaction au chef de l'État pour le sommet de Lomé. Et comme le disait Didier, ce n'est pas les pays victimes de coup d'État aujourd'hui, mais c'est tous ces États malades à des degrés divers. Et vivement, Harry Miao, que tous les pays ayant participé à ce forum en tirent les leçons en mettant en œuvre les recommandations qui sont assez hardies.
Didier a dit tout à l'heure qu'il y a quelques années, on citait en modèle le Ghana, le Sénégal, beaucoup de pays d'Afrique, et qu'on disait de ces pays être très avancés en termes de démocratie.
Et des gens comparaient avec notre pays, le Togo.
Oui, à comparer avec le nôtre. Mais aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des défaillances dans tous ces pays-là, au point qu'on se demande si, effectivement, l'Afrique s'est engagée dans la voie de la démocratie. Parce que pour moi, le sommet de Lomé, oui, je le salue, je félicite le gouvernement togolais qui en est l'initiateur. Et je me dis qu'au-delà, il va falloir que les Africains se retrouvent pour poser la question de voir si oui ou non, on est engagé à aller à la démocratie. Et le vrai nœud du problème, c'est de se demander si, qu'est-ce qu'on doit faire en Afrique pour éviter les coups d'État. Le coup d'État de tout genre, hein, vous avez dit qu'il y a des coups d'État constitutionnels, qu'il y a des coups d'État militaires. Mais il y en a.
État électoraux.
Mais il y en a. Le problème, ce n'est pas de voir comment est-ce qu'on peut pacifier l'alternance ou bien comment on peut pacifier l'après-coup d'État de tout ça. Est-ce qu'on veut aller à la démocratie, à revenir à votre pensée de jour, qui est d'ailleurs bien choisie par rapport à tout ce que nous discutons? Comment faire pour éviter les coups d'État de tout genre? C'est ça la question. Ce n'est pas comment faire pour pacifier l'après, c'est modèle de coup d'État. Parce que si on va toujours continuer pacifier les coups d'État, ça veut dire que nous avons épousé l'idée des coups d'État de tout genre. Ça veut dire que l'Afrique, oui, on dit on est en démocratie, mais bon, on peut faire des coups d'État et nous trouvons les mécanismes pour faire passer sous silence ou gravir les échelons de ces différents États. Pour moi, l'Afrique doit chercher à trouver le nœud qui lui permet d'éviter de faire tous ces coups d'État-là. Et c'est en ce moment qu'on aura une Afrique bien
plus. Merci.
Bien
c'est épargne. À la matière que quand on écoute à gauche et à droite, on entend que le Togo, avec Fornia Singbe, est quelque peu complaisant avec ces pays qui ont fait des coups d'État, pendant que certains sont dus pour elles les amener rapidement à revenir dans l'ordre constitutionnel. Le Togo semble plus complaisant, les accompagner. Oui. Ça, c'est d'un. De deux, nous avons dit les problèmes, c'est pas seulement le coup d'État. Quelles sont les causes de ces coups d'État? C'est la mauvaise gouvernance, c'est les frustrations, c'est les situations d'injustice qui sont créées ici et là. Et il y a une réalité ici au Togo dont se plaignent les partis politiques et la société civile depuis quelques temps. Aujourd'hui, Liberté y revient, qui écrit la région de la Kara, toujours interdite aux partis de l'opposition. Et Liberté continue. Que disent les panicanistes Fort Nyasingbe et Robert Doucet? Voilà le Togo qui s'offre comme tribune pour discuter des problèmes de paix et sécurité. Or, c'est dans ce même Togo où des petits politiques, des associations de la société civile se plaignent que le pouvoir les empêche d'aller vers les populations, de tenir leurs meetings, de tenir leurs réunions, cela peut enfin ailleurs on a vu de telles situations grossir un peu et constituer de réels problèmes. Jean-Baptiste.
Naturellement, je crois que lors de ce forum qui a eu lieu les 7 derniers jours, je crois qu'il y a eu un panel qui a parlé des fragilités des institutions étatiques en Afrique.
C'est d'ailleurs le titre de l'article de
déjà nous avons parlé.
Justement,
les facteurs de fragilité.
Parce qu'aujourd'hui, tu viens de l'évoquer, et ça a été dit lors de ce forum, c'est qu'il y a dans certains pays, le pouvoir en place essaie quand même de museler tout. Les partis politiques n'ont pas d'opposition, n'ont pas droit de citer. Les organisations de la société civile fragilisées, les médias fragilisés, et ça, c'est des bombes à retardement. Ça a été dit énormément. Donc aujourd'hui, la réflexion doit se tourner réellement sur quel type de démocratie. C'est-à-dire que les médias, en particulier aussi, sont des pans importants du processus de démocratisation des pays. Mais quand on fait tout pour empêcher, museler la presse et les partis d'opposition n'ont pas le droit de citer, vous allez voir que ce ne sont pas des démocraties véritables, mais c'est des dictatures masquées. Et il y a je ne sais pas si c'est le ministre des étrangères du Tchad, il a bel et bien dit que un simple cycle régulier des élections n'est pas un attachement à la démocratie. Il a dit. C'est pas que chaque 5 ans ou bien chaque 4 ans dans un pays, on fait les élections régulièrement et on va dire que ce pays-là est un pays démocratique.
Merci. Cette petite bombe à retardement qu'on doit regarder. Encore une fois, ici au Togo, ça fait de nombreuses années que les partis politiques, la société civile se plaignent que le pouvoir les empêche d'aller, de mener leur activité. Au Tchad même, Succès Masra ne peut pas rentrer aujourd'hui. Son parti qui a des problèmes. À Madagascar, qui est à quelques semaines d'une importante élection, l'ensemble des partis d'opposition se plaignent que le pouvoir en place les empêche de manifester. Même au Sénégal, Ousmane Sonko et les siens également se plaignent. Ce sont ces petits problèmes qui vaut mieux régler aujourd'hui de peur que cela ne grossisse et crée de véritables problèmes demain. Uriel,
je pense que une seconde sur Madagascar, je pense que le président malgache et a plus de problèmes que ses opposants.
Parce enfin, moi,
que
je ne compare pas.
Regardez le nombre de candidatures et regardez ses doubles nationalités. Je pense qu'il a plus de soucis. C'était une parenthèse.
Okay.
Maintenant, parlant des facteurs de la fragilité des institutions des États africains. Vous savez, ce forum pouvait... les activités du forum pouvaient se résumer en cela seulement. Parce que tout le monde connaît ce qui fragilise nos institutions. Tout le monde connaît les causes des coups d'État.
Mais on n'y prête pas attention en temps opportun. On attend semblant. Plutôt la déflagration avant de jouer aux sapeurs-pompiers.
Peut-être qu'on fait semblant de ne pas prêter attention. Tout le monde le sait. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, tous les Togolais, c'est un exemple que je donne, ont besoin des hôpitaux pour se faire soigner quand ils sont malades. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, tous les Togolais ont besoin de l'eau potable. Qui ne sait pas que tous les Togolais ont besoin de manger à leur faim, c'est-à-dire le développement du secteur agricole. Qui ne sait pas que nous avons besoin de bonnes écoles pour nos enfants. Nous le savons tous. Ce sont ces secteurs-là, lorsqu'ils sont défaillants. Ça seulement, lorsque ces secteurs-là sont défaillants, vous laissez les dirigeants vraiment sur les peaux de banane. Tout le monde le sait. Donc, il faut que les dirigeants africains tournent leur réflexion sur ces aspects-là. Il faut que chaque pays travaille sur ça. Moi, j'ai besoin de me soigner lorsque je tombe malade. J'ai besoin de bien manger mais pour vivre heureux.
Et d'avoir droit à une justice quand tu estimes que tes intérêts sont lésés.
Ou sont lésés ou sont menacés. Donc, c'est tout cela. C'est ce que les gens demandent. Il faut qu'on réfléchisse là de ce qu'on n'aille pas dire. Bon, c'est le pétrole de l'Ukraine, c'est le pétrole. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. On peut bien vivre sans les coups d'État.
Si tu permets un mot.
Juste un mot.
Oui, un mot. Okay. Sur les facteurs.
Oui.
Les facteurs qui aboutissent au coup d'État. Prenez le plaisir. Je ne dis rien de grave. Prenez juste le plaisir de lire la constitution togolaise lisez peut-être le premier chapitre de la constitution togolaise. Lisez les premiers chapitres des constitutions des autres pays africains. Vous allez voir que si on veut regarder de près, les dirigeants manquent à leur à leur devoir. Et après, si on veut tenir compte de tout ça, les facteurs de coup d'État sont généralement réunis dans les constitutions et tout ça. Notamment quand le droit au développement des populations ne sont pas respectés. Des gens n'ont pas d'eau. Des gens n'ont pas...
Il a parlé
de la santé tout à l'heure. Des gens ne peuvent pas manger. Des gens ne peuvent pas aller à l'école. Des gens ne peuvent pas avoir droit aux services publics. Des gens n'ont même pas droit, dans certains pays, c'est compliqué d'avoir des pièces d'identité. Vous savez, même l'existentiel même de l'être humain. Quand les gens n'ont pas ça, ils ne se sentent pas citoyens. Et à partir de ce moment-là, Dieu merci.
Tu voulais dire juste un mot. Alors, un petit mot aussi, Jean-Baptiste.
Oui, concernant les facteurs de fragilité, je crois que lors du forum, il a été en mémoire aujourd'hui. La croissance n'est pas du tout partagée dans
beaucoup. La croissance économique.
Bien sûr, n'est pas du tout partagée. Quand on parle de croissance partagée, il n'y a pas ça dans beaucoup de pays africains.
Il y a la minorité.
C'est ça qui s'accapare.
Et il y a l'autre majorité.
Et doublé de. Il y a un panéliste qui l'a dit la dernière fois que bientôt, aujourd'hui, on parle de terrorisme qui menace beaucoup de pays sahéliens
et même
de la côte.
Pays côtiers.
De la côte. Mm-hmm. Mais bientôt, peut-être dans 5-10 ans, ce ne sera plus le terrorisme, mais c'est les conflits fonciers qui seront source de déplacement de population et même ceux qui sont les plus nantis, qui sont dans les villes, les capitales, qui ont barbelé leur maison, doté leur maison de n'importe quelle technologie, ils ne seront pas en sécurité.
Oui, notamment ceux qui sont à Lomé, ici, qui sont allés acheter 500 hectares dans les campagnes et qu'ils empêchent les propriétaires de venir même cultiver. Oui. Tout ça, c'est des bombes à retardement. Un petit mot aussi.
Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut que les pouvoirs africains fassent extrêmement attention.
Toi, tu n'as pas mis
parce que le pouvoir crée des inégalités.
Tu n'as pas mis
ces inégalités sociales créent des frustrations dans la population, dans les communautés. Vous savez, même chez nous ici, vous avez des gens et les gens se plaisent à dire, bon, c'est des gens du pouvoir, c'est tel qui est dans tel domaine. Et puis ces gens-là vibrent l'opulence. Et ils ne s'arrêtent pas à ce niveau. D'autres transforment l'opulence en arrogance et en nargue. Et donc quand vous commencez avec l'opulence, l'arrogance, la nargue dans les quartiers, les gens, eh bien, se disent, c'est eux qui ont ça et ça se passe comme ça. Et ça aussi est un facteur qui contribue à ce que les gens cherchent à se dire qu'ils vont renverser les tendances. Donc ceux de grâce ont le pouvoir. Ils n'ont qu'à penser aux aspects sociaux. Les gens croient à tout, mais au même moment, ils n'ont rien. Puisque s'il y a l'idée que l'on revient, s'il y a l'idée qu'on va périr tout, les gens doivent quand même être sobres.
Merci, Harry Miaou. Mais il se peut qu'avant la mort, il se peut qu'il y ait la justice. Encore une fois, même si comparaison n'est pas raison, retournons un peu au Gabon. Quand il y a eu coup d'État que nous condamnons, mais quand on a ouvert certains salons, quand on a ouvert certains parkings, qu'on a vu les mallettes d'argent que les gens avaient emmagasiné chez eux, tous les véhicules qu'ils avaient dans leur parking, je veux parler de la femme et du fils d'Ali Bongo, et là où ils sont maintenant. Hein? Donc c'est pourquoi, avant la mort, Harry Miaou, il se peut qu'il y ait la justice. Et vivement que, avant d'aller à la justice,
les gens
qu'on ne passe pas par un coup d'État, mais que la justice, à vos courage, fasse son chemin pour que autant on juge ceux qui sont soupçonnés d'entrer à la sécurité de l'État, mais également ceux qui sont soupçonnés d'opérer des crimes économiques dont on pense qu'ils sont devenus arrogants, provocateurs, que la justice rétablisse également le social. On va terminer rapidement avec la réglementation de l'exploitation des véhicules à moteur type taxi, taxi, moto, tricycle affectés au transport public. Si je ne m'abuse, ça fait la deuxième, voire la troisième fois que le Conseil des ministres réfléchit à ce sujet. Alors, pour l'essentiel, après le Conseil des ministres de vendredi, on apprend que ceux qui sont dans ce secteur, à savoir taxi, taxi, moto et tricycle, ont 24 mois pour se conformer aux dispositions de ce décret, à savoir l'obtention d'une licence du ministère des Transports et également l'obtention d'une autorisation de la collectivité territoriale dans la zone de laquelle on travaille. C'est pour aller à plus de professionnalisation du secteur, une meilleure identification des véhicules et leur périmètre d'activité, également meilleur confort pour les passagers, amélioration également de la sécurité routière. tout détails rapidement. Qui commence? Arim Yaou?
Non, bon, c'est pour dire que avec les accidents que nous vivons tout le temps, avec le banditisme et tout ce qui arrive dans nos différentes préfectures, dans nos régions et villages, il va falloir qu'on aille effectivement à cette condition. Et je crois que le gouvernement a bien vu, vivement, que les autres fassent l'effort de s'accommoder à cette nouvelle orientation pour nous permettre de circuler librement et pour nous faire économie des accidents que tout le temps nous vivons. Je crois que c'est bien vu par le gouvernement. Et chapeau au gouvernement, chapeau au ministère des tutelles, et que tout puisse aller avec les normes et que les choses avancent comme cela se demande.
Merci Jean-Baptiste.
Oui, je crois que cette décision du gouvernement est vraiment salutaire pour la sécurité des biens et aussi des personnes. C'est parce que ça, vous savez que les déboires que nous connaissons dans notre pays liés à la circulation routière, et beaucoup de déboires sont dus au fait qu'il n'y ait pas une réglementation bien adéquate qui permet d'identifier des auteurs d'actions répréhensibles et qui soient sanctionnés nommément. Ça fait qu'il y a trop de laisser-aller. Maintenant, avec ça, je crois que le contrôle sera fait depuis la licence qui sera octroyée à ces sociétés. Et ensuite, les auteurs... les auteurs des engins qui seront mis en circulation aussi auront leur part de responsabilité à jouer à cela. Et moi, je vais profiter de cette occasion aussi pour peut-être aller plus loin en parlant de aujourd'hui le fait que quand beaucoup d'accidentés aujourd'hui, quand il y a accident en circulation et puis les gens là sont, les victimes sont envoyées dans les hôpitaux, il n'y a pas vraiment une prise en charge adéquate. Ouais. Et là,
nous en parlons souvent. Les premiers soins d'urgence.
Et justement, c'est pourquoi je parle de des assurances, parce que nous avons beaucoup de compagnies d'assurance. Et il y a le Code Ciment, Conférence interafricaine des marchés d'assurance, qui fait obligation que à ces sociétés, à ces compagnies d'assurance, de verser un certain nombre de primes qu'elles perçoivent auprès des assurés pour que ça puisse aller dans la prise en charge des victimes d'accidents dont les auteurs sont en fuite.
Merci pour ce plaidoyer. Mais Didier Assogba, 24 mois pour que tous les propriétaires et conducteurs de taxi, moto et tricycle se conforment aux dispositions de ce nouveau décret, c'est trop longtemps, c'est trop long ou bien trop court, parce que même si le décret ne le dit pas, il faudra entre-temps obtenir le permis de conduire. Or, c'est un permis que le général Yark avait lancé depuis plusieurs années, mais c'est un permis qui est en panne parce que je ne sais pas si la direction des transports routiers et ferroviaires a l'expertise et le personnel pour faire passer cet examen à ces milliers, voire centaines de milliers qui conduisent surtout les taxis, motos et les tricycles sans permis aujourd'hui.
Oui, je ne sais pas si c'est les 24 mois sont trop ou pas, mais ce qu'on a pu avoir comme information à travers le communiqué du Conseil des ministres, c'est que ce délai a peut-être été fixé, si vous permettez.
Oui, vas-y. C'est que ce délai, parle seulement.
Ce délai a été fixé après des discussions avec des syndicats et des représentants du secteur des taxis, des taxis moto et peut-être des tricycles. Et que le délai a été décidé. Donc, je ne sais pas quels sont les niveaux d'avancement des discussions entre le gouvernement et les parties concernées. Mais si ce délai-là a été fixé, peut-être c'est indicatif et que les actions seront menées pour y arriver. Mais au sujet du permis, je pense que le travail qui a commencé. Comme tu l'as dit, a rencontré assez de difficultés sur le terrain et des gens ne cessent de réclamer au gouvernement et à la DTRF de relancer ce permis-là pour que ceux qui avaient déjà payé, qui ont fait toutes les formalités pour passer ce permis-là, puissent passer ce permis et avoir ce précieux sésame, parce que vous savez que la plupart des gens qui sont en moto et qui des fois sont victimes des accidents, ils ne bénéficient pas de dédommagement parce que justement, ils n'ont pas ce permis-là. Et donc, je crois que fondamentalement, il faut que l'État aide du personnel ou pas, il faut quand même trouver un mécanisme pour y arriver, puisque l'État même parle d'ici à 24 mois pour y arriver. L'essentiel, c'est d'y arriver. Comment on pourrait y arriver, je ne sais pas, mais il faut quand même y arriver parce que les accidents de route avec les motos, ça.
Uriel,
24 mois, je pense que c'est 2 ans.
2 ans, 24 mois, c'est 2 ans.
2 ans, c'est
à condition qu'on commence à l'appliquer dès aujourd'hui.
Oui, oui, je pense que si l'exécutif a pris la décision, je pense qu'ils ont mis en place les dispositions aussi pour mettre en pratique, pour que les gens se conforment à la nouvelle disposition. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous allez voir que ça ira de soi. Puisque lorsqu'un taxi, un taxi moto ou un tricycle sera auteur ou victime d'un accident, dans la procédure policière, vous verrez que en ce qui concerne l'assurance, on va leur demander tout ça. Mm-hmm. Oui, on va leur demander la licence dont on parle, le permis de conduire. Ça ira de soi. Les gens iront passer le permis de conduire. Les gens vont chercher à avoir la. Et ça, comme Jean-Baptiste Atisso l'a développé, c'est encore pour renforcer notre sécurité. C'est pour tout le monde. Moi, je ne vois pas une difficulté là-dedans. Hein. Mm-hmm. Si j'étais dans les secteurs, je vous assure que aujourd'hui, je me présenterais déjà à la mairie de mon ressort pour commencer par me renseigner. Comment faire ceci, comment. Et je suis en règle, je travaille.
Merci
sans
pour
problème.
Ton optimisme. Harry Miaou, juste 30 secondes.
Non, bon, moi, je voulais dire que rien n'est impossible au Togo. Vous avez vu comment le ministère de la Sécurité, quand il a exigé le port des casques, vous avez vu ce que ça a donné au début et aujourd'hui, ce que nous vivons dans les artères de notre capitale.
C'est vrai que
partout.
Ça commence à rentrer dans,
oui,
les habitudes.
Et je crois que les 24 mois qu'on a pris pour voir cette question et réglementer tout, ça va aller comme sur des roulettes. Oui. Rien n'est impossible s'il y a la volonté au niveau de nos autorités, la population va s'accommoder.
Je souhaite vivement que votre optimisme soit communicatif à l'endroit de toutes celles et ceux qui nous écoutent. Il est midi passé de 2 minutes. Nous marquons une pause. Nous rebondissons à l'instant avec les auditeurs. Michel.
93.5. Canal FM.
Le 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Pour co-animer avec nous. Le SOS Aléo 2000 pour aider à pomper l'eau dans ce bassin d'orage. Le tribunal militaire qui s'ouvre aujourd'hui. Et puis les autres questions dont nous avons traité, dont la réglementation des transports publics avec les taxis, taxis, motos, tricycles et le main capital du Peace and Security Forum. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, Jean-Pierre.
Oui.
Et j'ai salué le plateau, j'ai maintenant le Benoît Dagouin.
Oui, allez-y.
Et j'aimerais parler, vous avez dit que...
La communication n'est pas très bonne à votre niveau.
Ah, ok.
Oui.
Je disais que vous avez dit dans votre développement que le Niger, avant le Niger, on qualifiait le Niger plus que le Togo, que maintenant, 2 ans après que le Togo... Et devant le Niger.
Non, nous ne classons pas le Togo, mais nous avons évoqué qu'il y a quelque temps, les gens citaient des pays comme le Sénégal, comme le Mali, comme le Niger, même comme le Bénin, comme démocratie avancée sur le Togo, et nous savons maintenant ce qu'il en est dans ces pays.
Qu'est-ce qu'il en est? Ces pays-là dépassent sur le Togo, malgré qu'ils sont en crise. Au Togo, il y a quoi? Au moins, on dit chez nous, au moins, s'il y a la tenance. Il y a le Niger, il y a le djihadisme. Au Togo, il y a quoi? Alors que nous sommes plus riches que le Niger en matière de sous-sol.
Benoît, c'est vous qui faites les comparaisons. Je vous en laisse la paternité. Nous passons à l'auditeur suivant. Bonjour.
Allô, bonjour, Sass.
Oui, Didier.
Bonjour, Tanao. Bonjour, Myriam.
Bonjour.
Oui, Tanao.
Mon frère.
Comment ça va?
Alhamdoulilah, je rends grâce.
Alhamdoulilah. Monsieur Tanao.
Oui.
Moi, je voulais vous féliciter et puis vous encourager le fait que vous n'avez pas trépassé vos tests pour pouvoir rester président du CONAP. Et à présent, si vous n'êtes président, vous vous sentez moins Tanao ou vous vous sentez plus Tanao? Et qu'est-ce que vous conseillez à nos dirigeants ici au Togo et en Afrique? Secondo, tout à la semaine passée, on a parlé de comment la sécurité, sécurité maritime. J'ai pas entendu votre association. Donc c'est pour vous dire que il est facile de critiquer les partis politiques à vous-même assumer aussi là. Et puis pour en finir là, Monsieur Sass, je vous remercie beaucoup pour le thème que vous avez au début. Vous avez cité là, vous avez cité un thème pour
la pensée du jour.
Nos dirigeants en Afrique ici, là, surtout au Togo. On doit empêcher ces militaires-là de venir souiller nos terres, parce que c'est les gens qui se sont mis au banc de la communauté. Il est trop facile d'avoir les gens de laisser un coup de tête et de venir parler de comment gérer cette transition. Le truc devait être comment empêcher même ces gens-là de circuler dans la sous-région. Mm-hmm. Soit empêcher les coups d'État. Et puis pour en finir, vous avez parlé de partis politiques qui n'arrivent pas à Accra. Mais personne n'a répondu à ces questions. Les Sanyao, Muriel, ils ont fui. Ils n'ont quand même répondu pourquoi dans un pays où on parle de la démocratie, on parle de transition, on interdit aux partis d'aller dans certains pays du pays. Dans ce parti du pays.
Merci. Je vous en prie, Didier. Sinon, les collègues ont quand même abordé cet aspect de la question. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Oui, papa Sibeti.
Bonjour, mon dignité. Gagnon, le mot là.
Ouais, bonjour.
Bonjour, madame. Je demande à tous les Togolais de vous écouter. Ce que vous avez dit, M. Gagnon, ça c'est à la fin. Pour pas que les gens pensent que c'est fini. Il faut être humain, avoir un humain. Hein? Pensez aux autres. Les milliards dans les valises, dans les pizzas. Les gens vont dépenser ça pendant combien de temps? Même 1000 ans, ils ne vont pas finir. Ils n'ont qu'à passer. Regardez cette dame gabonaise là. Seule, assise devant, dans cette grande salle qui fait pitié. Il faut penser qu'il y a une fin d'autorité. Les premiers vont respecter. Pensez aux autres.
Merci, merci, papa Sibeti.
Il faut penser aux autres. Merci.
Merci. Je m'excuse parce qu'il y a beaucoup de graines dans les communications. Vous voudrez bien nous en excuser, mais Michel y travaille. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Bonjour, le plateau.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Alain de Codomé.
Alain de Codomé.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Moi, je remarque qu'au Togo, nous faisons les choses autrement, quoi. Il y a un procès que nous avons suivi en Guinée, là, concernant Toumba et Dadis Savara. C'était en direct. Mais nous, Togolais, nous aimerons savoir ce qui s'est passé dans la mort de Madjoulba en direct, pas en commentaire.
Mm-hmm. Vous savez, c'est nous-mêmes, les journalistes, qui aurions aimé les premiers à être autorisés à couvrir le procès, mais ce n'est pas le cas. Et c'est contenu dans la législation qui a établi la justice militaire, ce que nous déplorons vivement. Merci quand même, Alain. L'auditeur suivant, bonjour.
Hello, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Abdoul.
Notre cher Abdoul.
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons.
Moi, j'ai l'impression que le régime en place ne veut pas de la tenance. Il fait semblant que les opposants sont là, ils ne font rien. Mais c'est eux qui encore envoient les gens d'empêcher les opposants font des réunions. Mm-hmm. Vous voyez, votre confrère Germain Pouli a dit que l'opposition n'a qu'à s'organiser. Pour...
Allô, Abdoul?
Oui.
Oui, allez-y.
Ses propres frères Kabier même ne veut pas.
S'il vous plaît, Abdoul, nous parlons en togolais. Nous parlons en togolais sans fixation sur X et Y, s'il vous plaît, Abdoul.
Oui, la tenance, c'est bon pour un pays. Quand quelqu'un va venir, vous allez voir. Vous-même, les journalistes, vous serez heureux. Mais les gens ne veulent pas parler de ça. Yaï Boni a laissé le pays à Talon. Regarde ce que Talon est en train de réaliser. Mais une seule personne, lui, veut faire plus de 20 ans. Et il n'est pas fatigué. Il n'a qu'à dire la vérité. Au moins, lui-même, il n'a qu'à favoriser. Il n'a qu'à céder la place aux autres. C'est tout. Est-ce qu'il faut aller par 1000 chemins?
Merci beaucoup. Je vous prie, quand vous nous parlez, vous restez immobile. Pour que nous puissions vous écouter en qualité. Le suivant en ligne, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
C'est Bozambo.
Bozambo, ça fait un petit moment.
Oh, ça va.
Eh bien, nous écoutons.
Ok. Monsieur Sass.
Oui.
Vous avez dit qu'on a interdit les journalistes de venir couvrir le procès de monsieur de coup d'État ou bien de monsieur Katanga.
Non, le tribunal militaire qui s'est ouvert aujourd'hui n'autorise pas la presse à venir couvrir.
et qui va nous donner les rapports.
Ah, vous savez que par magie, nous vous en informons. Vous avez écouté, non?
Les rapports, faux rapports, maintenant, on va venir arrêter ou bien quoi? Hein? Vous êtes les journalistes. Dis aux petits Togolais et les militaires, au moins, il y aura quelques journalistes comme Sass Gaou. Vous êtes sur Canal FM. On peut vous inviter, venir écouter et nous expliquer au peuple togolais ce qui est arrivé. Il est tort ou il n'est pas tort. Et le peuple togolais, regardez la dame. Que veut qu'on encage son mari? Et lui, la dame aussi est décédée à côté de des enfants. Et qu'est-ce qu'on va dire au peuple togolais? Qu'il est innocent ou bien quoi? S'il est coupable, et ça va changer quoi encore? Donc, il faut que les Togolais, s'ils ouvrent un dossier, ils ont fermé les dossiers à tout le monde. Donc, M. Madouba, ce n'est pas un petit. Tu es dans un camp militaire. Ce n'est pas dans sa propre maison. Dans un camp militaire. Et maintenant, on dit qu'ils vont faire. Donc, et les Togolais, devant vous. Et ce que maintenant, encore, les ministres, ils ont parti pour faire un conseil des ministres à propos de la moto. C'est honteux pour notre pays. Pourquoi je dis ça? S'il y avait des émigrants, c'est bon pour les ministres. Donc, il épaulait ça. Donc, il n'y a pas aucun...
Non, l'ami Bozambo, nous sommes dans un pays organisé. Le secteur des transports, notamment des taxis motos, des tricycles, on doit l'organiser. Parce que c'est nous qui sommes victimes de ces accidents au jour le jour. Et nous en accusons justement les dirigeants.
Et si vous accusez les gouvernements, où sont les routes?
Non, chaque chose en son temps. Les routes, l'ami Bozambo, nous sommes dans un dialogue. Nous avons encore parlé aujourd'hui des routes qui ne sont pas bonnes. Ça, on en parle, mais en même temps, les mauvais comportements que nous affichons sur la route, il faut également en parler et cela passe par l'organisation, s'il vous plaît. Merci. Le suivant.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Komi.
Komi, nous écoutons.
J'ai deux sujets. Le premier, c'est la question de licence.
Oui.
Oui. Les 24 mois, vous avez posé la question si c'est long. Pour moi, c'est trop court. Pour démontrer ça, je vais prendre le cas des conducteurs qui sont grand marché. À connaissance, ce sont des gens qui conduisaient les pouces-pouces avant. Maintenant, avec l'arrivée des tricycles, ils ont évolué vers les tricycles. Et à ne pas vous mentir, ce sont des personnes sans pièces. Il faut alors, au préalable, commencer par réfléchir comment faire des occasions pour que tout ce monde-là ait d'abord leur pièce d'identité avant d'aller vers la question de licence. Mm-hmm. Sinon, après les 24 mois, vous allez constater que rien n'est fait. Mm-hmm. Merci.
Je vous en prie.
Le second sujet,
oui.
Et c'est la question de la mort de Bantulba.
Oui.
Et M. Harim Yaou nous disait que la démocratie togolaise avance, ou bien la justice avance pour qu'on ait des informations précises. Moi, je suis resté sur ma soif. Je prends le contre-pied parfait de ce qu'il a dit. Pourquoi? Nous voulons construire un état de droit. Et un état de droit pour de pareils procès. Vous, les journalistes, vous devez avoir votre part ou bien votre place. Personne ne peut pas vous le retirer. Secondo, ça doit être médiatisé pour que nous, population togolaise, nous ayons gage qu'il n'y aurait plus la répétition. Si on parle du cas de Giovanni Solito, les assassinats qui ont suivi, à ce jour, n'ont pas encore la garantie. Et Pacha ne démontrerait pas le contraire. Donc, c'est comme si, présentement, on renforce l'impunité et nous sortir une information comme quoi c'est comme ça a été traité. Non. Pour la démocratie, je dis absolument non. Ce n'est pas la bonne procédure.
Merci. Comme il faut un début à toute chose. Hier, nous n'avions pas la justice militaire. Nous l'avons. Elle n'est pas complète. Hein? Nous avons déploré le fait que la presse ne peut pas aller couvrir. Nous avons déploré le fait que le public n'est pas admis. Mais comment ça? C'est un début. peut-être en nous mettant ensemble, nous ne pouvons pas des plaidoyers, des lobbies, amener à changer, à modifier les termes de la justice militaire pour que ce soit plus ouvert. Pour ce qui est des licences, des transports, je crois savoir, nous avons des syndicats de conducteurs de taxis, moto, de tricycles. Les syndicats, où est-ce que vous êtes? Le gouvernement dit qu'il vous a associé à la démarche. Si vous n'êtes pas content, c'est l'occasion de faire des plaidoyers et à vous faire écouter. Bien, chers confrères, une minute à chacun pour une réaction. Harry Miaou?
Oui, bon, c'est juste pour dire à mon ami de tous les jours,
Didier,
qui aime me taquiner, que j'aime bien également, et qui parlait de Kara. Il disait que pourquoi est-ce que nous ne nous sommes pas prononcés sur le fait qu'on empêche les partis politiques de l'opposition à mener des activités dans la Kara.
Et un peu partout au Togo.
Un peu partout, surtout il a parlé de Kara. Et donc moi je voudrais dire que nous ne soutenons pas que l'État ou le gouvernement empêche les partis de l'opposition à opérer dans tel ou tel milieu. Mais très souvent, il y a de ces arguments que l'État donne, le gouvernement donne, en disant que selon les informations qu'on a eues, il va y avoir des débordements. Je voudrais aussi dire et encourager tous ceux qui gèrent les partis politiques, que ce soit des partis de l'opposition ou des partis du pouvoir en place, à sensibiliser les leurs à ce que chaque fois qu'il y a manifestation, qu'il n'y ait pas débordement. Parce que très souvent, nous regardons que les gens font les manifestations et débordent aussi.
À ce niveau, Harry Miaou, il revient à la force publique
d'encadrer
les meetings et les manifestations pour qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà, il y a quand même, nous sommes dedans dans 32 ans, s'il y a une réelle volonté, on va encadrer les manifestants et pour qu'il n'y ait pas
de
débordement.
Au-delà de ça, j'ai été aussi interpellé par quelqu'un tout à l'heure qui disait que par rapport au procès, j'ai dit que la démocratie togolaise est en marche et que la justice togolaise, elle fait bien son boulot. Et moi, j'ai dit, vous l'avez répondu, hier, il y avait beaucoup de choses qu'on ne croyait pas possibles au Togo. Moi, je n'ai jamais pensé que des pontes du pouvoir qui sont en situation seraient appelés à aller répondre à la justice.
Et ça a commencé.
Ça a commencé.
Merci beaucoup. Jean-Baptiste, une minute s'il vous plaît.
Oui, je crois qu'on doit encore mettre l'emphase sur le fait que la ville de Kara soit une ville de non-droit pour les acteurs politiques de l'opposition.
Parce que plutôt que Kara, même à Lomé ici, les partis politiques se plaignent qu'on les empêche. C'est un phénomène un peu partout dans le pays qu'il faut déplorer.
Absolument, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on accuse l'opposition de ne pas occuper le terrain. Et maintenant, l'opposition s'est décidée d'occuper le terrain. On lui met des bâtons dans les roues. Je crois que cette situation mérite d'être déplorée et condamnée, d'ailleurs.
Merci.
Parce que ça, ce n'est pas normal si on veut construire, comme on l'a dit dans, lors du forum, si on veut construire une véritable démocratie. C'est ça, c'est important. Et pour ajouter que peut-être concernant le dilemme des démocraties en Afrique, je crois qu'il y a aussi quelqu'un qui a évoqué le fait que l'Union africaine puisse modifier sa charte pour que peut-être les élections, les mandats soient au niveau supra, décidé au niveau supra pour
là,
que
c'est ça disons les discussions du forum
absolument
merci
soit limité et
temps,
là
on va devoir aller rapidement. Didier,
je crois que pour l'incident de Kara, il faut quand même préciser que c'est pas la force publique qui a empêché les
c'est les milices,
les gens. Bon, moi je ne sais pas si c'est les milices, mais si c'est encore ça, c'est très dangereux. Je pense que c'est juste des citoyens comme ça qui se sont levés, qui ont menacé de brûler les voitures des gens. Si on est encore à cette étape au Togo, je crois que c'est assez dangereux et que la force publique dans ce cas-là devrait se saisir de ce dossier, mener des enquêtes pour savoir qui sont des Togolais qui menacent d'autres Togolais de les brûler ou brûler leurs voitures parce que des gens auraient pas fait des manifestations, auraient pris une salle pour faire une réunion. Là, c'est encore très grave dans le pays. Donc, après ça, moi, j'ai plus d'autres choses à dire. Nous sommes dans une démocratie en construction. Il peut y avoir des balbutiements, mais puisque nous accueillons des forums comme ça, travaillons pour que on
soit exemplaire.
Bien. Moi, je vais intervenir sur deux sujets rapidement. Le premier, c'est au sujet des passerelles qui ont été construites sur le contournement. Mmh. Vous savez, c'est ces passerelles qu'on appelle le passage à piétons. C'est ça, non? Mmh. Sous forme d'échangeur, là. Mais je constate plutôt que les piétons n'en font pas usage. Et il y a toujours problème dans la circulation. C'est construit à coup.
Il y a eu des enquêtes sociologiques au départ.
Non, ce n'est même pas enquête. Il faut sensibiliser les usagers de la route, les populations dans leur ensemble, à faire usage de ces passerelles. Vous arrivez à ce niveau, c'est des amoureux, vous retrouvez en haut, ils sont là. Des amoureux, ils vous regardent.
La nature est horreur du vide. Comme les piétons refusent, les amoureux s'approprient.
Et puis, maintenant, deuxième point. Vous vous confrontez avec les piétons là-bas, c'est pas normal. Okay, il faut que les communes fassent une sensibilisation. Je voulais féliciter le préfet de la Bina qui a lancé un appel à candidature pour renouveler 21 chefs de village. 21 chefs de village seront bientôt renouvelés. Pour l'ordre public, pour la continuité du service public.
Mais c'est le chef, c'est le préfet qui décide s'il faut renouveler les chefs?
Non, c'est lui qui lance l'appel à candidature. Le courrier des candidats est adressé au ministre de l'administration territoriale. Toutes les conditions ont été définies. Vous pouvez lire dans notre journal. Et je pense que c'est une très bonne chose. Ce n'est pas une préfecture où les chefs de village ou les chefs de canton font vie de pouvoir, mais ils sont là quand leur temps finit.
Il y a un autre article qui m'intéresse beaucoup, puisqu'on en a parlé tantôt.
Oui.
C'est Megan Info qui l'écrit. Obtenir un certificat de nationalité, une séance foraine de 5 jours à l'université de Kara.
Oui, tout à fait.
Hein? Alors, Harry Miaou, si tu n'as pas un certificat de nationalité, tu peux aller t'inscrire à Kara et te le faire établir. L'occasion quand même pour nous de remercier, de féliciter les maires de la commune Golf 4 et Golf 6, Jean-Pierre Fabre et Jean-Baptiste Dagbovi, qui ont fait établir des actes de naissance à certains milliers de leurs citoyens ces derniers temps. Si tous les 117 maires peuvent en faire autant d'année en année, d'ici peut-être un siècle, tous les Togolais auraient leur papier d'identité. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain mardi à 11h.